Bien, nous allons nous fier à cette heure qui est ici. Il est, semble-t-il, 10 heures. À d'autres horloges du Collège de France, il est un peu avant, un peu après, cela dépend. Donc je rappelle que la semaine prochaine, c'est le jeudi et le 11 novembre, donc il est férié, que nous reprendrons dans 15 jours. Je rappelle aussi que le cours de cette année, qui est centré sur l'analyse du texte de théâtre dans ses rapports avec l'oralité, soit l'oralité de la représentation d'un texte déjà écrit, soit l'oralité de la reconstruction mémorielle de textes représentés et qui deviennent de ce fait transcrits puis publiés. Et comme première étude de cas, j'ai choisi, pour faire un lien avec des séminaires ou des cours plus anciens, un texte portugais du début du XVIIIe siècle, représenté en 1733 à Lisbonne, au théâtre du Beiro Alto, et qui est la vie du grand Don Quichotte de la Manche et du gros Sancho Panza, ce qui permet évidemment de développer une première histoire que j'avais entamée il y a 15 jours, et qui était l'histoire des adaptations théâtrales de la seconde partie de Don Quichotte, avec en son centre de cette seconde partie les chapitres où donc Sancho Panza est devenu gouverneur de l'île de Barataria, mais qui permet aussi de dévider deux autres fils que l'on rencontrera aujourd'hui, l'un qui est le théâtre pour lequel cette pièce a été composée, c'est-à-dire un théâtre de marionnettes dans le Lisbonne du premier tiers du XVIIIe siècle, ce qui pose la question à la fois du théâtre de marionnettes et des représentations ou des présences du théâtre de marionnettes dans d'autres pièces de théâtre ou dans le Don Quichotte lui-même. Et d'autre part, un fil qui nous conduira à la discussion du rapport possible entre une œuvre et son auteur, en suivant, grâce aux recherches qui ont été menées ici même par mon collègue Nathan Wachtel, sur les nouveaux chrétiens portugais émigrés au Brésil, et ensuite, du fait de la volonté de l'Inquisition pour beaucoup d'entre eux, ramenés à Lisbonne pour être jugés par l'Inquisition, le lien existant entre cette trajectoire de vie, qui est celle de l'auteur de cette pièce, Antonio José da Silva, et d'autre part, son théâtre, a commencé par la vie du grand Don Quichotte de la Manche. J'en étais donc à l'analyse d'un certain nombre de pièces qui ont adapté, se sont appropriées de la seconde partie du Don Quichotte à partir de la première que l'on avait rencontrée, c'est-à-dire une pièce française de Daniel Guérin de Bouscal, Le gouvernement de Sancho Panza, publiée en 1642. J'avais évoqué aussi, bien qu'il ne s'agisse pas du gouvernement de Sancho dans cette œuvre-là, une comédia de 1600. Pour le moins représenté en 1673, El Hidalgo de la Mancha, qui était la troisième comédia espagnole vouée à Don Quichotte, si l'on pense à l'une que nous avions étudiée ici il y a plus de trois années, El Don Quijote de la Mancha de Guillén de Castro, et puis une comédia perdue de Calderón de la Barca. Dans la France de la toute fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, donc avant la pièce d'Antonio José da Silva, le Quichotte, et en particulier la seconde partie, et en particulier le gouvernement de Sancho Panza dans son île, a inspiré des œuvres qui appartiennent à plusieurs genres. Un premier genre est celui des comédies, et on connaît en 1694 une comédie de Dufresne, en 1712 une comédie de Dancourt, qui est ainsi présentée dans un instrument que l'on utilise classiquement pour connaître le répertoire du théâtre français, qui est un livre publié en 1733, donc la même année que la pièce portugaise dont je m'occupe, qui est de Maupoint, la bibliothèque des théâtres, et qui fait une analyse rapide d'un certain nombre, ou d'un grand nombre, d'œuvres classées par l'ordre alphabétique de leur titre. Et à Sancho Panza, on rencontre, donc en 1733, plusieurs anciennes comédies portent ce titre, entre autres le gouvernement de Sancho par Guérin du Bouscal en 1642, la pièce dont nous avons parlé il y a 15 jours, et les deux modernes sont, d'une part, celle de M. Dufrény en trois actes de prose, non imprimés en ses œuvres, et l'autre du sieur d'Ancourt en cinq actes de vers, joués au mois de novembre 1712 avec peu de succès. L'auteur convient qu'il a conservé quelques morceaux d'une ancienne comédie de Sancho, en fait, il s'agit presque d'un plagiat de la pièce de Guérin de Bouscal. Il fit cesser les représentations de sa pièce pour y ajouter plusieurs scènes, ce qui le flattait que, si on la donnait au public en l'état qu'elle était maintenant imprimée, elle serait reçue plus favorablement. On retrouve là une mention sur cette tension qui pourra nous occuper entre les représentations qui peuvent être des échecs et d'autre part les éditions imprimées qui soit essayent de compenser pour et par le public des lecteurs l'échec sur la scène, ou bien qui, dans ce cas-là, pour se disculper sans doute de cette accusation de plagiat qui portait sur sa pièce d'Ancourt, ajoute pour une édition imprimée, mais à distance des représentations, un texte qui, pour lui, aurait pu assurer le succès de la pièce. Donc cette tension entre représentation et édition est un leitmotiv, est un motif permanent dans cette analyse. Donc des comédies, soit des comédies en prose, soit des comédies en vers. D'autre part, le théâtre de la foire, qui est composé pour les deux foires parisiennes, celle de Saint-Laurent et celle de Saint-Germain. Et là, comme vous le savez, il s'agit souvent de représentations avec un texte très réduit, fondé sur la pantomime, et pour une part par des comédiens italiens, avec une interdiction d'avoir des dialogues parlés, qui était le monopole des troupes privilégiées par le roi. On rencontre plusieurs Sancho Panza gouverneurs dans cette forme du théâtre de foire. L'une est indiquée sous le nom de M. Bellavoine, elle date de 1705, et dans un autre dictionnaire des œuvres de théâtre, plus tardif, de 1767, on la décrit ainsi. Pièce en trois actes de M. Bellavoine, représentée par la troupe de la veuve Maurice au mois de février 1705. Cette pièce eut beaucoup de succès. Belloni, célèbre Pierrot de la foire, y jouait le rôle de Sancho. Et on voit une continuité entre le répertoire traditionnel du théâtre de foire, très largement fondé sur les personnages de la Commedia dell'arte ou sur des personnages traditionnels comme ce Pierrot de foire, et d'autre part, l'introduction de la figure de Sancho Panza, et parfois de Don Quichotte, à l'intérieur de ce théâtre. En 1710, il y a une autre pièce pour le théâtre de foire qui est due à Fuselier, et la pièce est entièrement consacrée à des personnages de la Commedia dell'arte, puisque le titre en est Arlequin, Escaramouche, Vendangeur, mais dans une édition imprimée, on rencontre, précédé d'un prologue et suivi de Pierrot Sancho Panza, gouverneur. On voit le lien qui s'établit entre le personnage du Pierrot et le personnage de Sancho, suivi de Pierrot Sancho Panza, gouverneur de l'île Barataria, exécuté au grand jeu du préau de la foire Saint-Laurent au mois de septembre 1710. Et cette pièce est intéressante puisque les indications scéniques qui scandent l'édition imprimée, alors même que la totalité des dialogues ou des chansons n'y sont pas publiées, commence par « Le théâtre représente la fameuse île Barataria qui surpasse les plus belles îles qui soient en terre ferme. Scaramouche, personnage de la Commedia dell'arte, appelle les peuples de l'île Barataria et les invite à célébrer l'entrée de leur nouveau gouverneur par cet écriteau sur l'air de Grimaudan, et là suit une chanson qui est chantée par Scaramouche. À la scène 2, on peut, à partir de la scène 2, de cette suite donnée à Arlequin et Scaramouche, Vendangeur, on peut suivre comment la trame du Don Quichotte, seconde partie, chapitre consacré à Sancho gouverneur, est respectée ainsi. Sancho Panza, qui a enfin attrapé ce gouvernement si désiré et si bien payé par ses épaules, fait son entrée au son des instruments dans l'île Barataria. Cette entrée est composée des personnages les plus comiques, Sancho est monté sur le cher grison de son âme, et tous deux sont vêtus, ainsi qu'il est écrit dans les fidèles chroniques de Cid Hamet Benengeli. Allusion précise au fait qu'à partir du chapitre 9 de la première partie du Quichotte, le texte qui est proposé aux lectures est supposément la traduction d'un texte écrit en arabe par un historien arabe, Cid Hamet Benengeli, et la fiction du texte trouvé, rencontré un peu par hasard à l'intérieur de l'histoire écrite par Cervantes, est rappelé ici avec cette idée qu'il y a fidélité par rapport à la chronique de Cid Hamet Benengeli, c'est-à-dire par rapport au texte de Cervantes, dans cette représentation sur le théâtre de foire, et qui va suivre à gros traits et à grands pas l'ordre de la seconde partie du Quichotte avec Sancho justicier, et en particulier cet épisode que j'évoquais entre la vivandière et le laboureur. Une vivandière approche la première, la première fait allusion à ce qui était l'indication scénique précédente, c'est-à-dire l'acte de justice. Après elle, un laboureur qu'elle accuse par cet écriteau sur l'air « Tu croyais en aimant Colette ». Et tout est chanté puisque les dialogues parlés sont interdits, et c'est le moment où Sancho, pour démentir les accusations de la femme qui prétend avoir été séduite ou violentée par le laboureur, lui donne une bourse qu'elle défend avec grande vigueur, ce qui prouve qu'elle aurait pu peut-être défendre aussi, comme je le disais, sa vertu, c'est du moins ce que suggère Cervantes dans le Quichotte. Et à partir de là, on a la scène fameuse où Sancho demande à manger et à chaque fois, un médecin lui retire les plats pour la diététique, et pour finir, l'annonce d'un stratagème qui a été monté par le duc pour en finir avec cette fiction de Sancho gouverneur, qui est d'annoncer que l'île va être attaquée. Un courrier burlesque vient annoncer à Sancho que les ennemis sont entrés dans son île. On entend un bruit de combattants et on arme le gouverneur en lui posant deux ais, c'est-à-dire deux planches de bois, l'une sur le dos, l'autre sur le ventre, en guise de cuirasse, qui est exactement fidèle à la description de Cervantes. Après un fin combat, on lui annonce qu'il a gagné la victoire. C'est dans ce moment que, dégoûté des grandeurs et des épines qui y sont attachées, il prie qu'on lui ramène son âne. Dès qu'il est arrivé, il lui ôte son harnais de coursier de gouverneur et se dépouille lui-même des marques de sa dignité et prend congé de ses sujets par cet écriteau. Et là, c'était la présentation au public d'un texte écrit, un écriteau, de façon à se substituer au dialogue parlé. Et la fin de cette suite, de cette post-face à la pièce Arlequin et Scaramouche Vendangeur, est « Les plaisants qui ont harcelé Sancho Panza se réjouissent du succès de leur malice, et la pièce finit par la danse d'un mort et d'une mauresse », en accord peut-être avec la référence à Cid Hamet Benengeli, écrivain, historien arabe, et aussi en référence avec une danse folklorique qui est très présente dans toute l'Europe des XVIe, XVIIIe siècles, particulièrement en Angleterre, qui est une fiction de danse mauresque, et par les sauts les plus extraordinaires. On voit donc qu'il y a un Sancho gouverneur sur le théâtre de foire, en parallèle avec le Sancho gouverneur des comédies en trois actes ou en cinq actes, en prose ou en vers. Et le troisième et dernier genre, qui dans ces années 1690-1720, s'approprie la deuxième partie du Quichotte en France, c'est l'opéra comique. Et en 1727 est représentée sur la scène de l'opéra comique une œuvre intitulée « La bagatelle » ou « Sancho Panza, gouverneur ». On a donc une très riche série d'adaptations, d'appropriations théâtrales qui marquent bien l'importance non seulement de l'œuvre de Cervantes dans cet horizon de lecture et de réception, mais aussi particulièrement l'intérêt qui s'est déplacé de ce qui maintenant sont des motifs très classiques, qui sont les épisodes bien connus de la première partie du Quichotte, à commencer par les moulins à vent, vers la deuxième partie et cet intérêt pour cette riche intrigue qui est à la fois burlesque, mais peut être autre, aussi déborder la dimension burlesque de Sancho gouverneur, avec les thèmes que l'on a vus la fois dernière, le thème du gouvernement idéal lié avec l'île, dérisoire ici puisque l'île n'en est pas une, et d'autre part le thème de l'abdication, le thème du retrait du pouvoir par le prince, est ici traité sous la forme burlesque de Sancho, dégoûté des malheurs ou des infortunes que lui crée sa position de gouverneur. Alors pour terminer ce rapide inventaire qui a seulement pour but de mettre en place l'arrière-fond de l'adaptation faite par Antonio José da Silva, il faudrait mentionner des opéras italiens qui ont été représentés dans la cour de Vienne au Teatrino di Corte, et on a là deux opéras comiques qui ont tous les deux le même compositeur, Antonio Caldara, et le même librettiste que Giovan Claudio Pasquini. L'un date de 1727, il a pour titre Don Quixote in corte della duchessa, Don Quixote à la cour de la duchesse, qui est défini sur la partition comme opera serio ridicola per musica, un opéra sérieux et ridicule, sérieux ridicule en un seul mot, en musique, et en 1733, un Sancho Panza governatore dell'isola Barataria, Sancho Panza, gouverneur de l'île Barataria, qui est défini comme une commedia per musica. Donc, on voit que, très clairement, il y a un très riche matériel textuel qui est proposé par la seconde partie de Don Quichotte, et dont les dramaturges, depuis les formes les plus populaires du théâtre de foire jusqu'aux formes les plus élitaires de l'opéra comique à Paris ou de l'opéra de cour à Vienne, peuvent s'emparer. Et c'est dans ce contexte qu'il faut situer ce texte de 1733, sans savoir si Antonio José da Silva avait connu l'un ou l'autre de ces Sancho Panza qui le précédait, ou de ces Don Quichotte qui anticipaient sa propre œuvre. Et c'est dans ce contexte qu'on peut donc situer son vie du grand Don Quichotte de la Manche et du gros Sancho Panza, en sachant que son adaptation s'est fondée sur une édition en espagnol, en castillan, du Don Quichotte, puisque le texte n'a été traduit en portugais qu'en 1794, d'ailleurs dans une traduction anonyme, et qui a pour titre « O ingenioso Fidalgo Don Quixote de la Mancha », l'ingénieur Hidalgo Don Quixote de la Mancha, sans nom de traducteur. Et la traduction canonique ou classique en portugais ne date que du XIXe siècle. Ce qui prouve cette circulation, évidemment, entre Portugal et Espagne, ou portugais et castillan, non seulement parce que, durant une période, 1580-1640, Portugal est devenu l'une des couronnes du roi de Castille et d'Aragon, mais aussi parce que, ensuite, une fois reconquis l'indépendance du Portugal, la proximité des langues fait que, alors que le Don Quichotte est traduit dans très nombreuses langues européennes avant la fin du XVIIIe siècle, la première vague, comme je le rappelais, étant celle des traductions anglaises, françaises et toscanes, en portugais, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour avoir une traduction. Donc, Antonio José da Silva disposait d'une édition, d'un exemplaire d'une édition en castillan, et une indication dans le texte permet sinon de repérer quelle était l'édition précise dont il disposait, mais au moins de repérer que la famille d'éditions dans laquelle s'inscrivait son propre livre, puisque à un moment donné, Sancho, j'y reviendrai sans doute dans le dernier des cours sur cette pièce, c'est-à-dire dans 15 jours, Sancho fait une allusion à Don Quichotte en mettant en rapport ce que fait le Don Quichotte de la pièce avec le Don Quichotte du livre. Et il évoque le livre sous le titre de « A vida da vossa mercé », la vie de votre seigneurie ou de votre grâce. Et ce titre-là, Vida y Hechos de Don Quijote de la Mancha, la vie et les faits, les hauts faits de Don Quichotte de la Manche, n'est pas le titre des premières éditions, comme vous le savez. Donc, puisque le titre c'est El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, et ce titre apparaît à partir de 1662 dans les éditions en castillan de Bruxelles, lorsqu'il s'agissait, c'est un thème que j'avais évoqué l'année dernière, de rassembler dans un seul ouvrage les deux parties qui avaient été publiées séparément, 1605 et 1615, une distance de 10 années. Et alors même que lorsque Cervantes publie la première partie, qui n'est pas encore la première partie, mais qui est seulement El Ingenioso de Hidalgo Don Quijote de la Mancha, il n'anticipe pas nécessairement l'idée d'en écrire une seconde. Donc il y avait un problème à partir du moment où en 1615 avait été ajoutée la seconde partie, et donc de mettre ensemble, sous un même titre, ces deux livres écrit ou publié à 10 ans d'écart, et le choix fut fait, bien après la mort de Cervantes, par les éditeurs de Bruxelles en 1662, de rassembler la El Ingenioso Hidalgo et El Ingenioso Caballero, Don Quijote de la Mancha, qui était le titre de la seconde partie, dans un même ouvrage qui portait le titre de Vida y Hechos de Don Quijote de la Mancha. Et toutes les éditions après 1662, aussi bien à Anvers ou à Madrid, portent ce titre. Il est très clair que Antonio José da Silva fait allusion à une de ces éditions postérieures à 1662, puisque le livre est désigné par Sancho comme « La vie de votre grâce »,« A vida da vossa merced ». Alors, pour comprendre cette pièce, il faut sans doute mettre en place ce qu'était le théâtre à Lisbonne au début du XVIIIe siècle, et en particulier dans les années 1720 et 1730. Deux formes de représentation dominent cet univers théâtral. La première, qui serait la plus proche du passé et du monde castillan, est la représentation des comédias, dans un lieu qui a pour titre Patio das Arcas, le patio des arches, ou des arcades, qui est le lieu où se représentent les comédias, en particulier tout le répertoire des comédias espagnoles du siècle d'or. Et comme dans de nombreuses villes, ce corral, ce patio das Arcas, appartient à un hôpital, l'hôpital royal de Tous les Saints, Hospital Real de Todos os Santos, qui reçoit une partie importante des entrées. Donc on a une situation qu'on retrouvera d'ailleurs dans des villes, y compris françaises, du XVIIIe siècle, où une des manières de donner des revenus à des institutions hospitalières ou de secours est de leur accorder une part des revenus assurés par les entrées dans au théâtre. Et donc, ce patio das Arcas est situé à l'intérieur de ces propriétés de l'hôpital de Tous les Saints. Mais en 1727, et c'est là évidemment une contradiction, puisque si ces hôpitaux sont évidemment régis par l'Église ou par des ordres religieux, en même temps, le théâtre, lui, est l'objet de campagnes et de critiques contre l'immoralité des spectacles qui y sont représentés. Et en 1727, ce patio das Arcas, à la suite d'une campagne particulièrement virulente contre le théâtre comme immoral, et en même temps à l'intérieur finalement d'une figure du blasphème que représenterait la création théâtrale qui invente des êtres et des situations qui ne dépendent pas de la volonté de Dieu, au-delà de la moralité ou de l'immoralité supposée des pièces qui mettent en scène des actes réprouvés par la morale chrétienne, le patio est fermé, les représentations sont suspendues et il ne rouvrira qu'en 1737, 10 ans plus tard. Donc il y a un premier vide dans le monde théâtral lisboète, de Lisbonne, du début du XVIIIe siècle, qui est cette fermeture du lieu où on représentait le répertoire le plus classique, c'est-à-dire le répertoire des comédias. D'autre part, deuxième présence théâtrale, ce sont les compagnies d'opéra italiennes itinérantes qui circulent dans toute l'Europe, mais y compris à Lisbonne et à la cour ou dans l'aristocratie portugaise, et qui mettent en scène, ou bien que simplement sous forme d'air de concert, donnent à entendre les opéras italiens. Ces lieux où ces troupes ou ces chanteurs représentent, ou simplement donnent à entendre, les airs des opéras italiens sont le Palais Royal et un certain nombre de petits théâtres privés aristocratiques, ou même, évidemment, pour la musique sacrée, les églises. Mais il n'y a pas de représentation publique des opéras italiens, soit sous la forme de récitals d'air, soit sous la forme de représentation de la totalité de l'opéra. Ils sont exclusivement donnés dans des espaces soit religieux, des églises, soit des espaces, on peut dire, privés, aristocratiques ou curiales. Ce n'est qu'en 1735 qu'une forme de représentation publique de l'opéra va être donné dans l'Accademia da Trindade, l'Académie de la Trinité, et la première opéra italien qui est donnée à Lisbonne dans cette forme de représentation publique est le Farnace de Schiacci. Du coup, il y a donc un deuxième vide qui là est donné par l'absence d'un genre qui va acquérir une grande popularité et un public plus large, et qui est celui de l'opéra donné dans des représentations publiques. On peut donc penser que le théâtre du Beiro Alto, du quartier haut de Lisbonne, met à profit à la fois la fermeture du Patio de Comedias, du Patio das Arcas, et d'autre part, l'intérêt, mais pas encore donné sous la forme de représentation publique pour l'opéra, pour mettre en scène, pour ces marionnettes, puisqu'il s'agit là d'un théâtre de marionnettes, une forme de théâtre qui va, dans un certain sens, rassembler ou unir la forme de la comédia, puisqu'il s'agit là d'une adaptation théâtrale de textes déjà là, à commencer par celui de 1733 qui ouvre cette série avec Don Quichotte, mais en même temps une forme de théâtre qui est très largement ouverte à la musique et au chant, puisque dans le Don Quichotte de Antonio José da Silva, on rencontre 3 chœurs, 11 arias, un duo et un chant pour 4 voix. Et tous les opéras ultérieurs composés par le même Antonio José da Silva vont voir augmenter le nombre de parties chantées dans son Labirinto di Creta, labyrinthe de Crète de 1736. Il y a 31 parties chantées, et dans le dernier opéra qui est représenté au Precipicio de Faetonte, le précipice de Phaéton, en 1738, 32 parties chantées. On a donc là très clairement une conjoncture courte du théâtre à Lisbonne qui a donné idée au théâtre plus classique du Beiro Alto, qui existait, qui était un théâtre de marionnettes, de passer commande pour des œuvres qui pouvaient avoir à la fois une dimension opératique, pour le moins musical et chanté, et d'autre part, qui pouvait s'ajuster, s'adapter à un répertoire adressé à la forme spécifique de théâtre, qui était celui du Beiro Alto et qui était le théâtre des marionnettes. Alors, comme on l'a vu, ou comme on le voit lorsque l'on peut voir ce film au Judéo, voué à la vie d'Antonio José da Silva, d'un réalisateur brésilien, il est assez difficile de reconstruire les conditions même matérielles des représentations du théâtre de marionnettes à Lisbonne. Ce que l'on peut supposer, c'est que les dispositifs de ce théâtre reprenaient les formes de théâtre de marionnettes qui étaient présentées à travers l'Europe par des compagnies italiennes et qui avaient fait naître ce genre dans des théâtres privés aristocratiques, aussi bien à Rome qu'à Venise, hein, des lieux premiers à Rome de ce théâtre de marionnettes et le théâtre privé du cardinal Ottoboni dans son palais cardinalis. Et puis ses troupes à Rome et Venise, de Rome et Venise ensuite, c'était mise en route pour représenter à Paris ou à Vienne des œuvres destinées aux marionnettes. Ce que l'on peut imaginer, c'est que évidemment sur le théâtre du Bello Alto se retrouve la forme matérielle de ces marionnettes italiennes, c'est-à-dire des marionnettes qui sont mues par des fils attachés à chacun des quatre membres, les deux mains et les deux pieds, et qui sont mues aussi par une tige qui entre dans la tête de la marionnette. La première description de ce type de marionnette, qui s'appelle dans l'italien du XVIIe siècle Pupazzi, se rencontre dans un livre de 1652. C'est le livre d'un jésuite, Domenico Tonelli, et qui est un livre qui a pour titre « De la Cristiana Moderazione del Teatro », de la modération chrétienne du théâtre. À l'intérieur de cette polémique sur la légitimité ou non du théâtre, vous trouveriez des échos en France avec l'hostilité de la Compagnie du Saint-Sacrement au théâtre, ou la conversion de Conti, qui avait été un protecteur de Molière en Languedoc et qui se tourne violemment contre le théâtre. Donc, une voie moyenne est d'essayer, pour certains, de trouver une légitimité au théâtre lorsqu'il respecte cette Christiana Moderazione, cette modération chrétienne. Alors, à l'intérieur de cet argument, Ottonelli, le jésuite, décrit le théâtre de marionnettes. Et voilà ce qu'il écrit, c'est une traduction que je donne. « Les figures ont une tête de papier mâché, un corps et des jambes de bois, des bras de corde, des mains et des pieds de plomb. » Et Ottonelli indique qu'un seul marionnettiste fait les voix de tous les personnages. Et avec un dispositif assez intéressant, il y a face à lui une copie du texte avec différentes couleurs afin de lui indiquer les changements du ton de la voix. Le rouge indique la voix d'une jeune fille, le bleu d'un homme, le vert d'un gracioso, c'est-à-dire ce personnage classique du comique dans la commedia. Et on voit que à partir de cette description assez précise, la tige qui entre dans la tête, les membres mus par les fils, un seul marionnettiste qui fait toutes les voix, on voit qu'on a affaire à un théâtre qui est différent de deux autres théâtres de marionnettes, à supposer que est rare, très rare, ce qui est devenu au XIXe siècle pour nous le théâtre de marionnettes, c'est-à-dire des marionnettes qui sont mues par des gants, qui sont mues par les mains des marionnettistes. Les deux autres formes sont soit des marionnettes qui sont maniées, elles aussi par une tige, mais par en dessous, c'est-à-dire le marionnettiste étant pas dessus le théâtre et maniant fil et tige, mais pas en dessous, mouvant les personnages, j'y reviendrai, avec le Quichotte. Et d'autre part, un théâtre de marionnettes où des sortes de rails étaient tracés sur la scène elle-même, ce qui permettait les mouvements limités, évidemment, dans ce cas-là, des marionnettes mues par en dessus, mais mues à l'intérieur de parcours déjà inscrits sur la scène elle-même. Alors, on peut penser que les marionnettes de Lisbonne, comme l'a pensé Azoulay, le réalisateur brésilien, lorsqu'il donne à voir dans son film que deux scènes du Don Quichotte de Antonio José da Silva, à Lisbonne, ces marionnettes étaient proches de la description de Ottonelli. Elles sont appelées figuras artificiais, bonecus, bonifrates. La différence est qu'elles ne sont pas de bois. Dans la description d'Ottonelli, le corps et les jambes sont faits de bois, mais elles étaient de liège, ce qui était leur donner une plus grande mobilité par leur légèreté elle-même. Et ce qui permettait sans doute des effets de scène assez spectaculaires, que des changements très rapides de scène et des mouvements très marqués des personnages. Ce que dans les indications scéniques des pièces d'Antonio José da Silva, on trouve sous le nom de mutações, des changements de scène. Et par exemple, dans la première partie de son Don Quichotte, en 1733, les spectateurs du Beru Alto pouvaient voir le chevalier errant tuer le lion, adaptation du chapitre où Don Quichotte rencontre un lion, mais il ne le tue pas. Le lion se désintéresse de lui parce qu'il a été gavé de nourriture. Le fait que l'entrée de Don Quichotte dans la caverne de Montesinos avec, dit le texte, des éclairs et du tonnerre, ou encore, il en viendrait, que l'envol de Don Quichotte et de Sancho vers le mont Parnasse sur des nuages. Donc une légèreté qui permet ces mouvements plus amples, même s'ils sont dans un format réduit que le théâtre de machine, mais qui limite en libérant des contraintes pesantes du théâtre de machine, et d'autre part, une légèreté des marionnettes elles-mêmes du fait qu'elles sont en liège. On sait peu ou quasi rien sur le public du théâtre du Beru Alto, ce qui semble net, c'est qu'il s'agit d'un public citadin composé des mondes, des métiers ou de la bourgeoisie de la ville, peut-être aussi une présence de la petite noblesse, ce qui indique un thème que je voudrais maintenant mettre en place, qui est qu'on a identifié sans doute trop rapidement le théâtre de marionnettes avec un répertoire populaire, avec un théâtre itinérant ou un théâtre de foire. Et ce qui a conduit à cette immédiate désignation est évidemment le fait qu'il y a des œuvres majeures qui incorporent le théâtre des marionnettes dans leur propre trame. Deux exemples, le Quichotte lui-même, avec le retable de Maître Pierre, dans les chapitres 25 et 26 de la seconde partie du Quichotte, et d'autre part, une comédie de Ben Jonson, représenté en 1614, le Quichotte de 1615, dont deux textes presque contemporains, mais seulement imprimé en 1631, et qui est la foire de la Saint-Barthélemy, Bartholomew Fair. On peut jeter un œil sur ces deux textes, puisqu'ils sont à la fois présents dans une référence au théâtre de marionnettes, mais différents dans ce qu'ils montrent par rapport à ce qu'étaient les représentations du Beru Alto. Alors, dans le Quichotte, vous vous souvenez peut-être que cette présence des marionnettes entre lorsque, dans la seconde partie, au chapitre 25, dans une auberge, Sancho et Don Quichotte rencontrent Maître Pierre, Maese Pedro, qui a deux éléments pour le spectacle qu'il donne à voir de manière itinérante. D'une part, un retable de marionnettes, et d'autre part, un singe qui devine, en lui chuchotant la réponse à l'oreille, ce que les spectateurs sont dans leur vie ou dans leurs conditions. Alors voilà comment il est présenté, Maese Pedro, par l'aubergiste au chapitre 25. « C'est un fameux montreur de marionnettes qui depuis longtemps parcourt cette manche d'Aragon, montrant le retable de la délivrance de Mélisandre par le fameux Don Gaiferos, qui est l'une des meilleures histoires et des mieux représentées que l'on ait vues depuis longtemps dans ce royaume. Le répertoire de ces marionnettes, c'est un texte, un romancé ancien, qui était la femme de ce Don Gaiferos a été raptée par les Maures et elle est libérée par son mari. Mais, ajoute le texte, il a aussi un singe du plus singulier talent qu'on ait jamais vu parmi les singes et qu'on puisse imaginer parmi les hommes. Car si on lui pose une question, il écoute attentivement, puis il saute sur les épaules de son maître pour lui dire à l'oreille la réponse à ce qu'on lui a demandé, et Maese Pedro la donne aussitôt. Il en dit beaucoup plus sur le passé que sur l'avenir. Et même s'il ne tombe pas juste à tous les coups, la plupart du temps, il ne se trompe pas, si bien qu'il nous donne à penser qu'il a le diable dans la peau. Il prend 2 réaux pour chaque question, si tant est que le singe répond, je veux dire si son maître répond pour lui, après qu'il lui a parlé à l'oreille. Aussi croit-on que ce Maese Pedro est fort riche. Il est galant homme, comme on dit en Italie, et bon compagno, et buon compagno, et mène la plus joyeuse vie du monde. Il parle comme 4 et boit comme 12, le tout au dépens de ses boniments, de son singe et de son retable. Alors, durant ce séjour à l'auberge, Maese Pedro va monter son théâtre de marionnettes, et on a là une description assez précise de ce que pouvait être ce théâtre de marionnettes itinérant, sous la forme du retable, et vous savez que Defay va reprendre pour une de ses compositions musicales le retable de Maître Pierre. Donc, le spectacle va être organisé, et la description est ainsi menée par Cervantes. Don Quichotte et Sancho s'en furent à l'endroit où était installé le retable, à découvert, partout garni de petites bougies de cire allumées qui le rendaient brillant et resplendissant. À peine furent-ils arrivés que Maese Pedro se mit dedans, car c'était lui qui devait manier les personnages. Et un garçon, valet de Maese Pedro, se tenait en dehors pour servir d'interprète et expliquer les mystères du dit spectacle. Il avait une baguette à la main pour signaler les personnages à mesure qu'ils apparaissaient sur scène. Après que tous ceux qui étaient à l'auberge se furent mis en face du retable, quelques-uns debout, mais Don Quichotte et Sancho, bien installés, aux meilleures places, le truchement commença à dire ce que verra et entendra, qui entendra ou verra, le chapitre suivant. Alors ça, c'est le jeu de Cervantes, double, c'est-à-dire qu'il met le lecteur dans la position des spectateurs du retable, et d'autre part, comme vous l'avez entendu, il prévoit que son texte peut avoir une double forme de circulation, celui qui verra, donc celui qui lira avec les yeux, et celui qui entendra, c'est-à-dire celui qui écoutera lire quelqu'un qui lit le chapitre. Alors l'interprète commence, « Tyriens comme Troyens, tous demeurèrent quoi ?» Ce qui est une référence ailleurs à l'Iliade. « Je veux dire que tous les spectateurs du retable étaient suspendus aux lèvres du commentateur de ces merveilles. Quand on entendit à l'intérieur des roulements de tambours et des sonneries de trompettes, à tout va, ainsi que force des charges d'artillerie, dont le tonnerre cessa bientôt, et là-dessus le garçon haussa la voix et déclara « Cette véridique histoire que vous voyez ici, représentée et tirée au pied de la lettre des chroniques françaises et des romances espagnoles qui vont de bouche en bouche par nos rues et que répètent les gamins. Elle traite de la délivrance par le seigneur Don Gaiferos de son épouse Mélisandre, qui était captive en Espagne, au pouvoir des Maures, dans la cité de Sansueña, comme s'appelait alors celle qui aujourd'hui s'appelle Saragosse. » Et le spectacle va commencer. Ce qui est intéressant ici, c'est d'une part le fait qu'il y a comme un dédoublement des rôles, le marionnettiste qui fait se mouvoir les marionnettes, et d'autre part, cet interprète, qui est comme le commentateur du spectacle et qui montre, pour les identifier, les personnages ou les actions. Et ce qui laisse supposer que dans ce cas, Maese Pedro fait mouvoir ses marionnettes en étant en dessous, c'est non seulement l'idée qu'il rentre dans le retable, mais c'est aussi ce qu'il advient de cette représentation, puisque, une fois encore, Don Quichotte, qui connaît cette histoire mieux que tout le monde, va confondre le monde de la fable et le monde de la réalité, puisque au moment où Don Gaiferos a sauvé son épouse et fui la ville du prince Moore, les Moors se lancent à sa poursuite. Et le jeune homme, l'interprète avec sa baguette, décrit « Regardez quelle nombreuse et brillante cavalerie sort de la ville à la poursuite des deux amants chrétiens. Combien de trompettes sonnent, combien de clarinettes retentissent, combien de timbales et de tambours résonnent. Je crains qu'ils ne les rattrapent et ne les ramènent attachés à la queue de leur propre cheval. Ce serait un horrible spectacle. » Voyant tant de Moors et entendant tant de bruit, Don Quichotte se dit qu'il serait bon de venir en aide aux fugitifs. Aussi se leva-t-il en s'écriant d'une voix forte « Je ne permettrai jamais, moi vivant, qu'on commette en ma présence un tel outrage envers un aussi fameux chevalier et aussi hardi amant que Don Gaiferos. Arrêtez, vil canaille, cessez de le suivre et de le poursuivre, sinon vous aurez affaire à moi. » Et ce disant, et ce faisant, il dégaina son épée, se planta d'un bond face au retable, et avec une promptitude et une fureur inouïe, il se mit à faire pleuvoir les coups d'épée sur cette moriscaille de carton, la tête de Cervantes, c'est Titerera Morisma, le monde des titeres, puisque le terme espagnol pour les marionnettes, c'est titeres, la Titerera Morisma, donc est décapitée par... Don Quichotte, renversant les uns, décapitant les autres, abîmant celui-ci, mettant celui-là en pièces, il porta un tel coup de taille que si Maese Pedro ne s'était baissé, accroupi et recroquevillé, il lui tranchait la tête aussi aisément que si elle avait été en massepain, que si elle était hecha de masa de mazapan. Et donc on voit que dans son retable, Maître Pierre se cache, s'abaisse plus encore de façon à éviter les coups d'épée qui décapitent ses marionnettes. Et d'ailleurs, cette scène n'est pas très fréquemment représentée dans les illustrations de Quichotte, mais elle l'était dans l'édition de Bruxelles de 1662, que j'évoquais, et l'artiste, le graveur, a interprété la scène telle que je le fais maintenant, c'est-à-dire qu'il montre Maître Pierre qui est en dessous du théâtre, comme s'il avait manié, mu ses marionnettes par en dessous, et non pas sans doute comme au Bero Alto, les marionnettes mues par en dessus avec les fils et la baguette ou la tige entrant dans leur tête. Et la fin de l'histoire, puisqu'il faut la finir, et qui est pour montrer la cohérence ou les jeux que Cervantes établit entre la première et la deuxième partie du Quichotte, on va dévoiler l'identité de Maese Pedro, le fameux Cide Hamete Benengeli dévoile quelle était l'identité, je cite, c'est au chapitre 27 de la seconde partie. Il dit ensuite, Cide Hamete Benengeli, que celui qui aura lu la première partie de cette histoire se souviendra sans doute de Ginès de Passamonte, à qui, parmi d'autres galériens, Don Quichotte avait rendu la liberté dans la Sierra Morena, bienfait dont il fut par la suite mal remercié et encore plus mal payé par cette engeance maligne et dépravée. Ce fut ce Ginès de Passamonte, que Don Quichotte appelait Ginesillo de Parapir, qui vola l'âne de Sancho Panza. Et comme on n'en a mis ni le camp, ni le comment dans la première partie, par la faute des imprimeurs, plusieurs ont attribué au manque de mémoire de l'auteur la faute de l'impression. Bref, Ginès déroba l'âne pendant que Sancho dormait dessus en usant de l'habile artifice de Brunello lorsque devant Albaraque, il tira d'entre ses jambes le cheval de Sacripant et Sancho le récupéra depuis comme on l'a raconté. Ça, je le signale un peu entre parenthèses, c'est pour montrer les trames ou que tisse dont Cervantes entre la première et la seconde partie. D'une part, Maese Pedro est un personnage qui était un des galériens dans un des premiers chapitres du Quichotte libéré par Don Quichotte, qui prend les Galériens pour des pauvres victimes. D'autre part, Sor Inés de Pasamonte est celui qui va voler l'âne de Sancho, et c'est là toute une histoire éditoriale du Quichotte, puisque dans la première partie du Quichotte, cette âne volée, sans doute par un oubli de Cervantes ou par une erreur des compositeurs ou des typographes, réapparaît avant même que la scène de sa récupération ait été narrée. Et donc, du coup, la moquerie s'était focalisée sur Cervantes, incapable de tenir la logique de son histoire. Il y revient dans la seconde partie avec, d'une part, cette idée que c'était la faute des imprimeurs, et d'autre part, avec cet argument que Sancho, de la seconde partie, invente pour expliquer pourquoi il pouvait donner l'impression d'avoir encore la selle ou ce qui était les raies du son âne, alors même que l'âne lui a été volé, en faisant allusion savante, érudite, à cette scène de l'Orlando Furioso dans laquelle Brunello vole un cheval après avoir attaché son cavalier sans que celui-ci s'en rende compte. Donc il a gardé le cavalier, les raies et la selle, et en même temps le cheval a disparu. Donc c'est toute cette histoire-là, cet épisode incohérent dans la première partie, qui est transformé en matière même de l'écriture de Cervantes dans la deuxième partie. Donc c'est cette continuité à la fois narrative, c'est le même personnage qui réapparaît avec deux noms différents, et cette continuité, on pourrait dire typographique, c'est le fait de revenir sur une incohérence de la première partie dont on donne des justifications dans la seconde, erreur des imprimeurs, nature particulière du vol, qui fait allusion à un vol déjà de la littérature, celui de l'Orlando Furioso, qui marque cette continuité d'écriture. Mais pour en finir avec notre Inés de Pasamonte, ainsi, craignant d'être pris par la justice, lancé à sa recherche pour le châtier de ses 1000 délits et filouteries, qui étaient tant et tels que lui-même composa pour les compter un gros volume, c'était l'allusion à ce livre de sa vie écrit par Inés de Pasamonte que Don Quichotte découvre au moment de la libération, et qui est une manière pour Cervantes d'esquisser une parodie du genre picaresque, la vie du picaro, la vie de celui qui est hors la loi. Ce Ginès se résolut de passer dans le royaume d'Aragon et de se couvrir l'œil gauche en faisant le métier de montreur de marionnettes, car cela, et les tours de main, il les savait fort bien. Et il explique aussi comment il a trouvé un singe qu'il a acheté à des chrétiens libres qui revenaient de Barbarie, donc des chrétiens qui avaient été rachetés après avoir été esclaves dans le monde des barbares, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, et que le tour était très simple, c'est-à-dire qu'il arrivait dans un village ou dans un village voisin quelques jours avant, et doté d'une forte mémoire, Inés de Pasamonte mémorisait des histoires, des aventures, les conditions des habitants, et donc du coup se trouvait en position de répondre, non pas sur l'avenir, mais sur le passé, et donc d'étonner ceux qui pensaient que le singe découvrait leur propre existence ou secret, alors que c'était simplement le fait que Inés de Pasamonte avait pu tenir une information qu'il avait emmagasinée dans sa mémoire. Ce qui renvoie d'ailleurs à un thème qu'on a déjà rencontré, en particulier pour les pièces de théâtre, c'est-à-dire la capacité de mémorisation dans les sociétés de la première modernité, qui est sans doute infiniment supérieure à celle que dans les sociétés modernes, nous avons et dont nous avons hérité. Vous voyez ici tout cet artifice du singe qui devine le passé lié à la capacité de mémoire de Inés de Pasamonte, dans un livre fameux, Le retour de Martin Guerre. Natalie Davis avait montré comment un individu pouvait absorber l'identité d'un autre individu en absorbant une multitude de détails sur sa propre existence et en quelque sorte en appropriant la propre mémoire de l'autre. Lorsqu'il fait allusion au romance de Don Gaiferos, Cervantes fait allusion à cette transmission orale et mémorielle qui assure la permanence du texte, et nous pourrons le rencontrer que l'assistance à une ou plusieurs représentations d'une pièce pouvait elle aussi entraîner cette mémorisation, pas complètement littérale, mais cette mémorisation du texte. On a donc là un domaine, je pense, de réflexion extrêmement intéressant qui porte à la fois sur des techniques lettrées de la mémoire, qui étaient ces techniques médiévales ou renaissantes des arts de mémoire, qui font que le lecteur transforme sa mémoire en un magasin de références, de citations, de textes qui sont organisés thématiquement de façon à pouvoir être retrouvés lorsque ce lecteur en a besoin pour une propre composition, et d'autre part, une forme plus populaire, plus immédiate de mémorisation, soit de tout un répertoire de contes, de romances, c'est-à-dire donc de poèmes ou d'histoires, et une capacité, même si elle n'est pas organisée selon les théâtres de la mémoire des traités savants, une capacité, même chez les plus humbles, à mémoriser des données, des faits, des souvenirs. Et il y a là sûrement un élément important pour comprendre les horizons culturels des sociétés de la première modernité, puisque ensuite, de plus en plus, la mémoire va être déléguée, objectivée, hors de l'esprit de l'individu, d'abord dans la bibliothèque comme mémoire, et aujourd'hui dans nos préoccupations pour savoir quelle est la capacité de mémoire de chacun des ordinateurs dont nous disposons. Donc, il y a là une trajectoire fondamentale, mais sur la base de laquelle le Quichotte est absolument construit. Je vais peut-être arrêter là, parce que, pour commencer, le second exemple littéraire d'appropriation du théâtre de marionnettes avec Ben Jonson et lui donner une certaine cohérence. Donc, il est ici 56, on peut reprendre dans 11h, 11h02 ou 3, bon,